Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com ou la radio numérique, le DAB+. Au sommaire de cette émission, claque de fin sur le championnat du monde de vitesse 2018, un championnat qui a commencé le 18 mars sur le circuit de Losail au Qatar et qui se termine aujourd'hui à Valence sur le circuit Ricardo Tormo. Pour en parler avec nous aujourd'hui, quatre mordus de vitesse, deux passionnés des Grands Prix, Claude Bonduel et Nicolas Poiret. Messieurs, bonjour.
Bonjour la Miche.
Les habitués des débuts de saison au Grand Prix et de fin de saison.
Et de fin de saison.
Voilà.
Oui.
Et on va présenter aussi donc Cédric Févé, pilote, lui, alors pilote qui participe, donc on dit la
Benecup,
toujours, Benecup. C'est le SBK Belgium Hollande.
Voilà, c'est ça.
Avec un calendrier à 8 épreuves.
Oui.
Voilà. Tu as eu un petit problème cette année.
Oui,
en
mi-saison.
En participant à l'endurance à Spa-Francorchamps.
C'est ça. Aux 6 heures de Spa-Francorchamps, l'endurance, je dirais, nationale. Et une petite chute qui m'a engendré la fin de saison à partir du mois d'août, donc très dur pour cette année.
Voilà, on devait avoir Stéphane Poulous, mais peut-être qu'il est bloqué dans les embouteillages. Il y a encore énormément d'embouteillages ici sur la métropole lilloise. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure.
Oui, parce que la Miche, le fluo est à la mode en ce moment. c'est vrai que moi, le fluo, c'est pas trop mon truc.
Le jaune.
Parce que c'est vrai que ça fait un peu loser, quoi. C'est le mec qui est en panne sur l'autoroute, sur le talus. Là. Et puis moi, je suis motard. Et un motard, c'est pas un gilet jaune, c'est un blouson noir. Mais depuis qu'on nous prend un pognon de dingue,
commences à apprécier le gilet jaune.
Bah, on nous prend un pognon de dingue, mais c'est pour notre bien, c'est pour la planète, c'est pour notre bien.
Alors pour venir dans les studios, voilà.
Je crois que finalement ça va devenir un accessoire
indispensable.
Mais il est obligatoire dans la voiture, hein. Il est obligatoire.
Oui, mais alors on était un peu contre le gilet jaune.
Mais nous on l'avait pas.
Et il a failli être obligatoire sur la moto.
Normalement il faut le mettre sur la moto, mais on sait pas où.
Et alors j'ai remarqué, en venant dans les studios, j'ai failli arriver en retard parce que c'est bloqué encore ici sur la métropole. Certains ont mis des ballons sur le radar juste sous la ballons avec un gilet jaune autour. C'est bien décoré.
Il y a
de l'imagination. Madame Févé, bonjour.
Bonjour. Ça va bien,
voilà.
La Miche.
Oui. Claude, qu'on va tout de suite enchaîner là. Donc dernier Grand Prix. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison à Marquez
aujourd'hui? Il n'y a même pas encore commencé le dernier Grand Prix. Mais tout est joué. Les champions sont
suspense.
Il y a les vice-champions, ceux qui sont la deuxième place. Ça, c'est vraiment. C'est pas encore fait à 100%.
Voilà. Alors, les rookies de l'année aussi, c'est pas encore
fait. Les rookies, c'est pas fait non plus.
Ouais. Et puis le meilleur indépendant.
Marquez, encore une fois.
Impérial.
Impérial. Ouais. Alors, un Rossi qui a pas gagné une seule fois, qui n'est pas monté sur la première marche du podium.
Il a failli. Il est tombé à 5 tours de la fin.
Et qui perd aussi la deuxième place au championnat.
Oui, pour Vinales.
Pour l'instant, non. Ouais. Non, il n'est pas deuxième, il est troisième.
Il est troisième. La deuxième place, il la perd.
Il a perdu.
Suite
à la chute.
De Vizioso, il est deuxième pour l'instant.
Ouais. Et donc là aussi, aujourd'hui, il peut perdre aussi la troisième place parce qu'il n'est pas bien placé en plus sur la grille à Valence là-bas.
Ça se jouera avec son collègue Vinales.
Alors Vinales, qui a fait de la pole à Valence aujourd'hui. Hier, tout au moins.
Bizarre.
En qualif.
C'est sa première pole depuis 2017.
Et avec un temps pluie, donc au tout début des qualifs, ça s'est amélioré.
Oui, il a amélioré sur la fin. Zarco, il était dans un tour excellent aux qualifications. Il était en train de combattre pour la pole avec 3 centièmes d'avance. Et puis, il s'est retrouvé, il s'est cassé la figure au milieu du circuit. Donc, on ne saura jamais s'il aurait pu faire la pole. Du coup, il est 11e, c'est pas terrible. Mais à mon avis, ça va être humide, donc rien n'est joué. En fait, quand il pleut, c'est tellement la loterie que peu importe tellement la grille de départ, tout change.
Les prévisions pour aujourd'hui en Espagne, contrairement à d'habitude où ça fait pratiquement 10 ans qu'il n'y a pas plu, il va pleuvoir.
La météo, ça change. Voilà. Et puis, ici, il fait très beau.
Selon qui pleut beaucoup ou un petit peu, c'est pas les mêmes qui sont bons. Alors, ça va tout changer. Voilà.
Oui, ça peut tout changer.
Ça va changer, la quantité de pluie va faire la course.
Une question que je m'adressais donc à Cédric, qui est pilote. Est-ce que tu penses que le dernier Grand Prix, bah, tout est joué? Est-ce que la NIAC, elle est identique? Elle est pareille
qu'au
début de saison?
Moi, je pense que oui, parce que ceux qu'ils ont signé pour d'autres teams, ils veulent valoir ce qu'ils savent faire. Après, à côté de ça, je dirais, on va parler plutôt de la flotte, je dirais que ça nivelle, je dirais, les puissances des motos. C'est-à-dire quelqu'un, une moto qui est plus puissante va pas forcément être avantagée sous la flotte. Donc on va vraiment voir les bons pilotes qui seront devant. Moi, je pense que ça sera comme ça. Donc, je pense Marquez devant, forcément, parce qu'il est très, très, très fort. Au warm-up ce matin, il est encore premier, avec combien d'avance.
Sauf qu'il n'a plus rien à prouver. Il ne va pas essayer de se blesser. La seule chose, c'est qu'il est chez lui.
Oui, il
peut essayer de gagner.
Ça y est,
est-ce qu'il peut
champion. C'est-à-dire il est champion. C'est ça. Il ne va pas aller... à moins que ce soit vraiment un...
Pendant les qualifications, il est tombé au tout début des qualifications. Il se déboîte l'épaule.
Il rentre
à fond la caisse derrière un
scooter. L'épaule.
Il rentre à fond la caisse derrière un scooter. Il va à la clinique mobile. On lui remet l'épaule. Il prend sa deuxième moto et il fait le cinquième temps.
Ouais, il va pas.
On voit pas ça dans tous les sports. Hein. Ça, je peux préciser. On voit pas ça dans tous les sports.
C'est infernal. Il est hallucinant.
Ah, c'est énorme. Ouais. Mais voilà, moi je pense que cet après-midi, on risque de voir des pilotes qu'on voit pas d'habitude devant. Et ça va être super intéressant.
Alors, ce qui est inquiétant avec Marquez, c'est qu'on risque encore de l'avoir un petit moment.
À 25 ans, il peut être encore là.
Et là, Marquez travaille déjà pour l'année prochaine. C'est-à-dire que là, même il veut être devant parce qu'il sait très bien que là, sous la flotte, ça permet de faire travailler, faire avancer la technologie de la moto. Et là, il travaille pour l'année prochaine, encore une fois. Quoi.
Et demain, tous les pilotes essayent leur nouvelle moto de 2010-2020.
Voilà.
On en parlera de toute façon après en deuxième demi-heure d'émission parce que ça va changer hein, l'année prochaine. Le coéquipier de Marquez, ce sera Lorenzo.
Oui.
Mais alors qu'il va peut-être une.
Déjà, il faut que Lorenzo se fasse à la Honda. C'est pas
un duel machine. Un peu comme avec Rossi ou non, je sais pas.
Quand on a vu avec Lorenzo et les relations qu'il a avec Dovizioso, on peut s'inquiéter.
Ouais, mais moi je pense qu'ils s'entendent bien à deux.
Tu crois qu'ils s'entendent bien
pour l'instant.
Je pense que oui. Je pense que ça devrait le faire. Après, si Marquez encore est au-dessus de Lorenzo, je pense que Lorenzo va mal l'accepter.
C'est ça.
Mais pour l'instant, ils s'entendent bien. Ouais,
si Lorenzo remporte des courses et que Marquez il est plutôt en retrait,
ouais.
Il n'y a pas de danger.
Pour l'instant, je pense pas. Mais on ne sait jamais. Lorenzo, c'est quand même quelqu'un de très
sûr.
C'est ça. Après, encore une fois, la Honda n'est pas forcément aussi facile que la Ducati à l'heure actuelle.
Et pourtant, la Ducati, tout le monde disait, est vachement dure par rapport.
Vous avez vu les évolutions quand même qu'ils ont fait sur le châssis. C'est-à-dire qu'il prend des trajectoires complètement différentes que les autres motos. C'est-à-dire que le châssis est complètement changé. Ils ont un moteur hyper puissant. Je pense qu'ils ont beaucoup de facilité Ducati à l'heure actuelle.
C'est la meilleure moto.
Oui, parce qu'ils arrivent à gagner ou faire des temps sur des circuits où ils n'y arrivaient pas du tout. Ils étaient 10e, 9e, ils jouaient la deuxième moitié.
C'est ça. Circuits qui n'étaient pas des circuits à Ducati, mais arrivent.
Maintenant, ils sont là, ils sont toujours présents, même aux essais et tout ça, ils sont là. Ouais. Ils sont là.
Non, c'est certain.
On va revenir un petit peu sur cette saison. Hein. Donc, c'est 18 Grand Prix, je crois. Il y a eu ce fameux Grand Prix d'Angleterre annulé.
Annulé, on n'avait pas eu 19, c'est quand même 18.
Et voilà.
C'est la première fois que ça arrive.
La première fois que ça arrive, à cause d'un revêtement qui n'était pas adapté, qui était plutôt fait pour un pays chaud.
Ils avaient mal resurfacé. Et donc, il y avait eu des Formule 1 qui avaient roulé dessus alors qu'on n'avait pas le droit de rouler pendant 6 mois. Ouais. Et donc, ça faisait des cuvettes et la flotte.
Au Grand Prix annulé, c'est incroyable. Hein.
Oui, c'est pas normal.
On pourra venir aussi sur les performances de notre Français Zarco, qui au début de saison marche très bien et jusqu'au Grand Prix de France.
Jusqu'à sa chute.
Et là, il va chuter et après, c'est fini. Alors là, on ne comprend pas.
Ouais, moi, je pense que c'est plus l'aspect technique. Ce n'est pas lui qui a baissé le régime. Je pense que Yamaha ont bridé un petit peu les choses.
Oui, mais pourtant, quand on regarde bien, juste après
en fin de saison, ils ont débridé alors ?
Il y a...
ouais, moi, je pense que justement, quand ils ont bridé un petit peu techniquement parlant, Zarco a recherché une autre voie pour évoluer. C'est-à-dire que là, il s'est dit bon, ok, la moto, je suis au maxi, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer la moto ?
C'est sûr, c'est que sa moto, elle n'a pas évolué du tout. C'est bridé, je dirais pas jusqu'à là.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'évolution, ça s'est arrêté cette année. Ouais. D'accord ? L'année dernière, il y a eu quand même des évolutions. Cette année, il n'y en a plus du tout. D'ailleurs, ils ont enlevé 2 ou 3 ingénieurs Yamaha. Hein, donc, ça, c'est pas rien. Et à partir du moment où il a compris que sa moto, elle était, on peut plus. On ne peut plus trop évoluer par rapport à la moto, c'est lui-même qui a changé son pilotage. C'est-à-dire que là, à un moment donné,
il a tapé beaucoup plus de freinage. Il a pris un coup sur la tête quand même en tombant en Grand Prix de France et qu'il a eu du mal à s'y remettre après. Parce qu'on l'a vu avec des comportements qu'on n'avait jamais vus. On l'a vu s'énerver, dire je ne peux rien faire avec cette bécane, tout ça. Jamais il disait ça. Au contraire, avant, il disait j'ai ça, je fais avec, positive, positive attitude.
Parce que beaucoup de gens aussi.
Donc là, on l'a vu vraiment énervé, en colère sur son team, donner des coups de poing.
Il faut se mettre en tête que l'outil qu'on lui donne, il peut pas aller plus loin que ce qu'on lui donne. Donc à un moment donné, il s'énerve parce qu'il se dit ok, mais moi, je veux dire, j'ai 20 chevaux de moins que les autres ou 15 chevaux. Enfin bref, je sais pas trop, mais je veux dire, à un moment donné, ok, je peux pas arriver aussi vite qu'eux. Pourtant, j'ai le niveau de le faire. C'est très frustrant. Il faut s'imaginer que Zarco en tête, quand même, l'année dernière, il fait des superbes résultats en fin d'année. Il s'est dit l'année prochaine, je vais être dans le devant. Sauf qu'on lui enlève des choses. Et puis à un moment donné, mon gars, écoute, t'as que ça, débrouille-toi. Et il est très frustré, il se met en colère, il chute parce qu'il pousse, il pousse, il pousse, mais à un moment donné, Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas aller plus loin avec cette moto-là. Donc après, il a changé son pilotage pour continuer d'évoluer. Là, ça met quelques courses et là, il y a la résultante de ce qu'il a travaillé.
Ce qui est bizarre quand même, et c'était quand même une énigme, même si on sait un petit peu plus maintenant, mais c'est ce qui s'est passé avec Yamaha cette année.
Oui.
Et la contre-performance. Ils produisent des motos GP depuis des années, ils sont parfaitement au courant, ils ont des top pilotes pour la développer, et on se retrouve avec une moto qui ne fonctionne pas, pas de motricité.
La base du moteur est de 2004.
D'accord. Oui, la base du moteur.
La base du moteur vient de ça.
Ouais,
depuis, il y a une évolution chaque année, mais la base du moteur, c'est ça.
Oui, c'est ça. Après, je dirais, il faut regarder Yamaha. Ok, début d'année moyen, milieu d'année complètement à la ramasse, on est bien d'accord. Ouais. Et là, ça reprend. On est d'accord.
Je ne suis pas sûr, parce que regardez Rossi, on dit depuis le Grand Prix de France, il n'y a rien qui marche chez Yamaha. Il a fait deux podiums juste après.
Oui, mais c'est des effets succincts, c'est-à-dire que hop, une fois et après ça redescend derrière. Oui. Donc moi je pense qu'à un moment donné, alors on me dit que les moteurs ils sont plombés en début d'année jusqu'en fin d'année.
Oui.
Comment ils rattrapent de la puissance en milieu d'année?
Alors, je pense qu'ils essayent de compenser avec l'électronique.
Ouais, oui, d'accord. Okay.
Mais donc en travaillant sur l'électronique, mais le problème c'est que ce moteur il donne pas beaucoup de motricité.
C'est ça.
Donc, quand ils commencent à taper dans l'électronique, ils perdent de la puissance.
Ouais, forcément.
Ils arrivent à compenser pour certaines pistes qui sont moins demandées, où il y a moins besoin d'accélération. Mais le déficit en accélération, il se voit. Ils sortent moins bien de virage. Et sur la Ducati avec la ligne droite, c'est waouh.
C'est vrai.
À chaque fois, ils sont décollés.
Bon, voilà, on reviendra sur ce qui va se passer en 2019, l'arrivée de Triumph en Moto 2.
Oui.
L'assistance EBR, c'est fini.
Elle a
fait son temps.
Ouais. Il y a plusieurs pilotes qui vont partir, qui vont plus être sur la.
Et ça y est, ils prennent leur retraite.
Pas toujours. Et il y en a d'autres qui vont arriver, de ceux de Moto 2, qui vont monter.
Voilà, très bien. Bon, on va passer à un premier morceau de musique. Restez avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à vous offrir. On a des cadeaux aujourd'hui, donc restez surtout avec nous. Bonjour Laurent.
Eh bien, bonjour à tous. Yeah.
Ça te fait ça, Cédric, là t'es vibré un peu quand t'es sur ta BM, là, sur
c'est Achimé. C'est pas du bicylindre, là.
C'est pas du bicylindre.
Non. Mais tu sais, quand on m'enregistrera un petit peu, là, la BM, elle fait un bruit un petit peu plus pointu vers le haut.
C'est
un
ce 13 qu'on va 000 faire,
tours moteur.
On va mettre un enregistreur fixé sur ta moto, mais un enregistreur pour le bruit, hein, pas pour la vidéo.
Non.
Et puis tu nous feras un tour de circuit, voir
avec
un peu
plaisir.
Ce que ça donne.
Ah bah oui,
et à la limite, même commenter un peu, on mettrait un micro dans ton casque et tu nous commentes un tour de circuit.
Ça me ferait vraiment plaisir.
Ça serait bien, ça.
Ah bah oui.
Voilà. Donc on revient un petit peu donc, sur cette. On revient, c'est le sommaire de cette émission, la fin de ce fameux championnat du monde 2018. Avec Marquez intouchable, hein. Valentino Rossi, c'est la Bérézina, on peut le dire. Stalingrad.
Bérézina, non, il est toujours là. Il est toujours
oui,
là.
Mais enfin. Ouais,
mais bon, là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est terrible. Mais il est très loin. Mais par contre, il a quand même eu une saison avec le matériel qu'il avait où il s'est pas mal débrouillé. Hein. Il a souvent été meilleur que Vinales. Hein. Vinales revient en fin de course. Mais Rossi, il a toujours été, même si en qualification c'est compliqué, il est toujours là en course.
Sauf que Vinales, il marque des points à chaque fois, pratiquement.
Ouais, ouais.
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le. On parlait de Zarco qui, au début de saison, marche très bien jusqu'au Grand Prix de France. Et c'était l'inverse pour les Ducati. Ducati, elles n'étaient pas justement
on oublie le Qatar,
performantes au début de saison. Et après, on a vu Lorenzo enchaîner sur 2-3 victoires.
Attendez, le Qatar a gagné. Il a gagné de visio au Qatar, le premier Grand Prix de l'année. Bon, il
après,
a gagné.
Oui, mais après c'était fini.
Non, mais après c'était fini parce que Lorenzo il a fait un strike. Lorenzo il a poussé Pedrosa et Dovizioso dans l'herbe, dans les choux. Donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il s'est fait virer, parce que le truc quand même spécial de cette année, c'est que on a quand même viré des super pilotes. Il y a des super pilotes qui sont fait virer. Par exemple Zarco. Zarco, Yamaha a rien fait pour le garder. Alors que c'est rarement, hein, on a rarement vu une première saison de rookie comme ce qu'il a fait. Lorenzo, il s'est fait virer de Ducati. Il a pourtant gagné 3 GP cette année.
Au moment où il s'est viré, il commence à gagner.
Oui,
il enchaîne des victoires.
C'est vrai. Ouais.
Après, il y a Yannon, il a quand même fait 4 podiums. Il est viré de chez Suzuki. Hein. Il y a Pedrosa, 54 victoires en GP, pas de guidon. C'est dément. Hein. Il y a Bautista qui a quand même fait 4e en Australie lorsqu'on lui a prêté une moto d'usine. Hein, il est contraint de partir en World Superbike.
Attends.
Il y a Siméon. Non, pas Siméon.
Non, pas
Siméon. alors là, c'est la boulette.
Lui-même en payant sa place.
Et on pas de mon ami Siméon.
Même en payant sa place, ils en veulent plus.
Hein. Non,
du coup, il est condamné à passer l'aspirateur sur les motos électriques.
Siméon, l'année prochaine, on verra.
En moto électrique.
Mais il a marqué un point.
On va en parler, là, parce qu'il
va quand même marquer un point.
On va assister.
Oui, parce que tout le monde est tombé devant.
On a la chance d'assister.
Lutti n'a pas réussi. Hein.
On a la chance d'assister
Thomas Lutti,
au premier championnat du monde
Je sais pas, c'est de moto électrique.
De moto électrique.
Alors j'ai vu des pilotes, il y a Seth Giberno qui est.
Quand il pleut, ils n'ont pas le droit de rouler parce qu'il y a des problèmes d'arc électrique.
Bon.
Ouais, donc on n'a pas le droit de rouler quand il pleut. Donc ils ont prévu que quelques grands prix cette année. L'année prochaine, il n'y en aura pas sur tous les circuits. Mais ça va être intéressant.
Alors Randy Depugné.
Oui, Randy Depugné. Ouais.
Voilà, Kenny Forrest aussi.
Kenny Forrest. Ouais.
Donc Bradley Smith. Siméon, aussi le Belge qui part là-bas, donc sur moto électrique.
Oui, ils ont été recherchés un ancien. Comment il s'appelle, Giberno.
Giberno aussi.
Ouais, Giberno, ouais. Mais à quel âge Giberno?
J'ai une première aussi. Hein. Je vous annonce que Harley Davidson, il sort une moto électrique l'année prochaine.
Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur.
Il va falloir des watts.
Grand Prix. Ouais. Bon, voilà, donc on revient un petit peu donc, sur. Tiens, et aussi en moto 2, Fenati, hein, qui fait.
C'est autre chose. Hein,
Alors, m'adresse au pilote, hein, t'imagines qu'un pilote vient juste quand t'es à 230 km/h en ligne droite et qu'il prend ta poignée de frein.
Mais c'est normal, il fait une trace avant. C'est normal.
Mais il a re-signé. Hein, il a été re-signé pour Moto3.
Le même team qu'il avait viré, il a repris.
Il l'a repris
pour l'année prochaine, mais pas en Moto2, en Moto3.
Ah bon?
Ouais. Bah, c'est un excellent pilote. Hein. Il était vice-champion du monde en Moto 3 avec.
Sous la pluie, il a fait une démonstration aussi en Italie. Ouais, vraiment, tout le monde était derrière.
Il y a un sale caractère. Il faut pas l'emmerder.
Oui, effectivement. Là, on a jamais vu ça quand même. Approcher
c'est très dangereux.
C'est vrai qu'il avait un peu chatouillé dans les courbes et puis un peu des blocs passent un peu dans les virages. Hein.
Ouais.
Mais bon, c'est pas une raison non plus. Hein. Non. Après, ça, t'as pas le droit de le faire.
C'est vrai que les médias ils s'amusent quand même à faire voir que cette vidéo là, hein, mais oui, ils font pas voir ce qui s'est passé avant, pardon, et ce qui s'est passé aussi sur d'autres courses. Ça n'enlève pas ce qu'il a fait, il aurait jamais dû faire ça. Maintenant, c'est un jeune, hein, je sais plus quel âge qu'il a, mais il a en dessous de 20 ans, il me semble.
Il doit avoir 20 ans,
voilà. 20, donc, 21, bon, je veux dire, à un moment donné, c'est impardonnable, mais. Il s'est fait lyncher dans son pays, il s'est fait lyncher de partout. Ouais. À un moment donné, c'est. Voilà,
dépossédé de sa licence, promis aux oubliettes, vraiment, hein, et c'est marrant. Hein, depuis l'incident, ça s'est renouvelé un peu, le dialogue, et puis la peine fédérale a été allégée, et c'est le même team qui l'avait viré qui le reprend.
Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il lui laisse une chance. Maintenant, il faut être compréhensible. Il est très jeune. Il y a l'effet de course. Il y a tout ce qu'il y a autour. On ne doit pas faire ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas lyncher une personne de 20 ans. Ce n'est pas possible parce qu'il va faire des conneries derrière. Okay,
ils avaient dit qu'il serait interdit à vie
de circuit. Moi, j'ai déjà entendu. Mais la vidéo, elle est passée partout, même dans des endroits où
il
n'y a jamais de moto.
À la télé, elle est passée au journal de 20h.
Alors là où il n'y a jamais de moto, ça on le montre. Hein,
Mais oui,
donc on montre une mauvaise image.
La mauvaise image.
C'est ça. Mais maintenant, à titre personnel, là c'est du haut niveau. Moi, quand j'ai fait la Coupe de France pour mon sport au circuit de Croix-en-Ternois, je me suis retrouvé dans l'air pendant 10 mètres, au départ. Donc, il y en a un qui m'a poussé, il a fait tout ce qu'il voulait pour me pousser, je me suis retrouvé dans l'air, après je suis reparti, c'est l'effet de course aussi. Là, c'est vraiment réel, c'est-à-dire que c'est pas réellement un fait de course, c'est-à-dire que le mec vient chercher le truc, ok.
Puis en fait, la victime c'était Mandy.
C'est ça.
La victime c'était Mandy, et Mandy il a dit faut arrêter, il l'a pardonné en fait. Il lui a dit faut arrêter de le lyncher comme ça, c'est dégueulasse.
J'ai imprimé un truc là sur le Parisien, qui n'a rien à foutre avec la moto.
C'est ça.
Mais là, il a une noisette dans le cerveau, tu vois. C'est vrai, c'est du lynchage.
C'est pas forcément évident pour le monde de la moto, tout ça.
Bon, on revient donc sur les MotoGP. Qu'est-ce qui s'est passé encore en 2018 depuis ce fameux mois de mars là au Qatar?
Les Suzuki marchent de mieux en mieux. La preuve, c'est qu'ils ont pas gagné cette année, mais ils ont quand même fait pas mal de podiums. Avec Rins aussi, il monte en puissance puisqu'il a passé Iannone au niveau du championnat. Il est devant. Hein. Il est cinquième. Il a même passé Zarco. Il a passé pas mal de gens. Et il y en a qui le voient même vainqueur au dernier Grand Prix.
Lui, il se voit bien.
Tout à l'heure.
Ouais, il se voit bien, lui.
Et il se voit bien. Et c'est vrai que c'est un pilote, quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il force. Ouais. Il chute. Il a chuté aussi cette année aussi. Il chute, mais franchement, il monte en puissance.
Je crois que les Suzuki, c'est une excellente moto.
Et c'est une excellente moto. Il manque de puissance, la Suzuki. On sent qu'en en accélération, on l'a vu aussi quand Iannone y est venu avec Marquez et Dovizioso pour... À chaque fois qu'ils ressortaient, ils se prenaient 2-3 mètres dans la vue, hein, à chaque fois.
Ils tombent pas, ils ont pas beaucoup de problèmes de châssis, je trouve qu'ils se...
Elle est bien développée,
celle-là. On pourra revenir un peu sur...
Elle est développée par...
Gantoli.
C'est ça.
C'est Gantoli.
D'accord.
On pourra revenir sur cette histoire avec Zarco, hein, qui... ça on va en parler tout à l'heure, mais qui part chez KTM, mais que Suzuki avait rappelé en fait. Hein. Ouais, Suzuki avait rappelé, avait reproposé une machine.
Yamaha voulait pas lui, mais c'est sur le manager, Suzuki l'a proposé, ouais. Brio l'a proposé, Honda lui a proposé. C'est fou aussi. Hein. Et bon, enfin, là, il y a eu un problème parce que. Faut pas rêver, hein. Même si la KTM progresse, elle sera pas au niveau avant quelques années. Hein.
Ouais, je pense que là, voilà,
pas, là c'est rêver. Vrai que c'est elle est pas au niveau de la Suzuki, même si elle vient d'arriver aussi. À un moment donné, la KTM. Est-ce que Zarco va pas se poser la question ? Est-ce que j'ai choisi le bon côté ?
Il a pas choisi, c'est son manager qui a choisi. Et d'ailleurs, il y a eu du tirage entre les deux.
Du tirage.
Côté de ça, ça va permettre de développer la KTM. Zarco.
On a même dit que ses contre-performances de milieu de saison, c'était un peu dû à tout ça, parce que il faut pas oublier qu'ils ont signé hyper tôt dans la saison.
Oui, on avait fait une émission de Grand Prix de France. Et avant le Grand Prix de France, on parlait déjà des transferts en 2019.
Ils ont été fous, ils ont re-signé tout le monde très tôt, et ça a foutu le bordel parce que du coup, il y avait. Comment veux-tu, Yannone, comment veux-tu qu'il développe la Suzuki si il sait qu'il s'envole l'année prochaine? Pareil, Lorenzo, il a déjà sa tête chez Honda. C'est vachement pervers ce système. Et Zarco, il sait qu'il n'aura aucune évolution sur sa moto et qu'il n'a plus qu'à attendre la fin de l'année pour avoir une moto d'usine. C'est pas motivant.
C'est pas motivant.
C'était une erreur totale, je trouve.
Il devrait faire comme le foot, avoir un mercato,
Avant, c'était le mois de septembre. Le mois de septembre, c'était crucial en moto Grand Prix pour les changements. Fin août,
on est presque à la fin du championnat, donc c'est normal.
Non, mais fin. Puis maintenant, en septembre, octobre, il y a des grands prix. Il y en a au moins 6 encore. Donc, pense qu'il faut attendre au moins septembre. Parce que là, début d'année, là, au deuxième grand prix, troisième grand prix, on savait déjà que
Vinales était signé
chez Yamaha, que Rossi allait continuer.
J'ai rien dit. On parle de saison, ça s'allonge. Il y a de plus en plus de grands prix. Moi, ça fait à peu près 8 mois, 9 mois que ces pilotes. Les pilotes, ils n'arrivent pas le jeudi. Ils arrivent le jeudi ou vendredi matin. Mais le team, les mécaniciens, les gens qui installent le matériel, c'est pratiquement 8 mois constants, tous les week-ends. C'est pas tous les week-ends, c'est un week-end sur deux. Mais il y a des courses qui s'enchaînent tous les dimanches.
Non, mais de toute façon, ils se déplacent, les mecs.
On peut imaginer.
On les croit sur la route d'ailleurs, quelquefois.
Je les ai vus.
On peut imaginer la vie qu'ont ces gens-là. Toi qui participes à un championnat à 8 épreuves,
là, quand c'est en Europe,
tous les 15 jours, tu es en déplacement.
C'est certain, tous les 15 jours, nous on part, on a un planning qui démarre au mois d'avril et qui s'arrête au mois de septembre. Et les amis, on ne peut pas avoir des rendez-vous au week-end, c'est pas la peine.
Une petite tente sur un circuit avec une moto, c'est un barnum. Double barnum maintenant, avec des réceptions des sponsors, parce qu'il faut avoir de l'argent et il faut bien entretenir les sponsors, parce que sinon important. Après ils ne seront
c'est
pas
important.
Contents.
C'est important, c'est des prestations qui sont vendues, je dirais, aux entreprises.
C'est comme la miche avec sa camionnette.
C'est ça, la miche qui passe au-dessus des ronds-points dans l'air. Donc non, c'est vrai qu'ils développent automatiquement le marketing et automatiquement ils doivent avoir des camions pour tout développer. Déjà pour transporter tout ce qu'il y a à transporter, parce qu'il faut savoir qu'ils présentent deux motos dans le box, mais à mon avis, en termes de pièces, il doit avoir deux ou trois motos dans les camions.
Quand tu chutes deux ou trois fois, ils sont là-bas en Australie, machin.
Il n'y a pas question de dire j'ai plus de pièces.
C'est pas le truc. Hein.
Surtout que 15 jours après, entre l'Australie et la Thaïlande, il y a quand même plus de 3-4 000 km.
Et là, ça part en avion.
C'est pareil pour les États-Unis avec le Sud et le Nord, mais entre l'Argentine. Et les États-Unis, on regarde le nombre de kilomètres,
il y a des bornes.
C'est un paquet. Hein.
Donc c'est puissance 1000, 2000 par rapport à toi.
Nous on vient avec notre camping-car, un camion ou deux camions, parce que on évolue.
Mais vous avez deux camions maintenant.
Non, tout à fait. Mais il faut, après quand je parle camion, c'est pas des semi-remorques, mais à un moment donné, il faut, c'est impératif. Nous, le team continue encore l'évolution. Maintenant, on va faire des belles prestations pour les entreprises qui veulent nous aider. Mais encore une fois, c'est un peu comme tout le monde. Moi, je pense que. Le niveau moto en France commence à bien évoluer. On a eu beaucoup de publicité grâce aussi au championnat du monde d'endurance. Le promo sport reste une succursale hyper intéressante pour démarrer. Et puis maintenant, le Superbike France, quand on regarde, Kenny Fauré va se retrouver en e-moto. Alors, il a fait 2 ans premier. Donc je pense que derrière ça, la France commence à bien avoir une belle évolution. Pas autant que l'Espagne, on va dire. Pas autant que. Mais ça commence à monter et non, ça fait plaisir pour la France.
Moi je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il n'y a plus de pilotes en Moto 3 de français.
Non, oui, alors c'est ça.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de relève.
Là, la relève, elle est plus là.
Oui, alors il y en a, mais le problème de la Moto 3, ce qu'il y a, c'est que c'est le CEV qui est derrière. Donc, oui. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, nous, on n'a pas besoin d'aller en CEV. Donc le Moto 3 en France n'est pas forcément évolutif pour partir directement. Mais on peut évoluer en Superbike et après derrière. Mais le MotoGP, c'est normalement, on passe en Superbike et après MotoGP. Mais nous, on n'a pas forcément ça en France, c'est dommage.
Alors, on voit Quartararo qui a remporté, un podium. Hein.
Ouais.
Il a trois podiums. Bah, le troisième il a été éliminé parce qu'il lui manquait 0,2 g de pression dans son pneu arrière.
Mais il y a un règlement, hein,
règlement 0,02.
T'as intérêt à avoir un appareil vachement précis.
Ne serait-ce qu'en prenant la pression tu bouffes
et puis c'est pas ça, c'est que si vous avez vu les diagrammes qu'ils ont donné donc sur internet, c'est-à-dire que le pilote commence à je dirais 1,1 en pression parce que c'est des pneus basse pression avec une carcasse très très dure. Plus on baisse les pressions, plus on a de l'amplitude au sol, plus on a de grip. Donc du coup ils ont dit voilà, on met un règlement là-dessus et on ne doit pas dépasser en fin de course on ne doit pas descendre en dessous de autant de pression, c'est-à-dire ça doit être peut-être 1,2 parce que je pense que je roule à peu près avec les mêmes. Nous c'est des KR, eux c'est des motos 2, j'ai déjà roulé avec des motos 2, c'est identique, c'est les mêmes carcasses, sauf que à un moment donné voilà, si en fin de course il est en dessous de, je dirais, entre parenthèses, c'est pas sûr à 100%, mais il est en dessous de 1,2.
C'est
un 4, voilà, ouais. On est d'accord. Donc, il faut savoir que les ingénieurs doivent calculer la température le pneu va prendre en fin de course, c'est-à-dire qu'il va démarrer
la pression change,
c'est ça.
Parce qu'ils cherchent la limite.
Voilà, la limite. C'est évident, c'est le mondial.
En fait, un pneu qui est sous-gonflé chauffe plus et donc a plus de surface au sol.
Je dirais pas pareil. C'est-à-dire qu'un pneu sous-gonflé chauffe la carcasse, pas la gomme.
Ouais,
c'est la pression qu'il y a à l'intérieur.
Mais par contre, il se déforme et donc il y a plus de surface au sol.
On va revenir sur le problème des pneus juste après parce qu'il y a Laurent qui me fait signe.
Désolé Laurent, on discute, on entre potes.
On verra un petit peu sur le problème des pneus. C'est quand même dommage que Quartararo ait perdu un Grand Prix à cause de ça. 0,002.
Ah oui, oui.
Bon voilà, on va parler Salon Moto Légende qui fête ses 20 ans juste après le morceau de musique.
D'accord. Pas démarrer le morceau de musique.
Oh, comment Laurent, il a merdé là.
Bon, alors Laurent,
on va le lâcher.
Down.
Cédric, pour avoir des bons pilotes en MotoGP, Moto3 et Moto2, il faut forcément faire de la formation.
Voilà, il faut passer par le starting racing.
Voilà.
Non, je déconne.
Parce que tu fais aussi de la formation.
Alors oui. Alors,
pour les jeunes pilotes, bon, pour ceux qui voudraient tâter un peu de la piste.
Voilà, on n'est pas le seul, on est l'un des organisateurs dans le Nord-Pas-de-Calais qui organise sur des circuits comme Croix-en-Ternois, Follembray, Clastres et aussi Carole. Et donc, ce qui est très intéressant dans notre organisme, c'est qu'on accepte les pilotes débutants, des personnes qui n'ont jamais fait de piste. Le but premier, c'est surtout acquérir le plus de personnes qui roulent sur la route pour venir essayer de se trouver des limites un petit peu chez nous. Et tout ça dans le cadre de la sécurité. Parce que c'est très, très important d'avoir des pilotes en circuit. Ça permet de se libérer surtout. C'est très, très important. Tout en sachant, je dirais, qu'on essaye d'avoir des prix très, très bas pour engendrer, je dirais, le plus de personnes possible et donner goût à la piste.
Donc c'est des sessions d'une journée ?
Alors tout à fait, c'est des sessions d'une journée. Bon là, on a un dimanche et un lundi qui est prévu à Croix-en-Ternois. La première se fait le 27 avril à Follembray, le 29 avril à Croix-en-Ternois. Mais c'est des sessions d'une journée, donc on a des pilotes encadrants. D'ailleurs, je les remercie tous, un coucou à tout le monde. Et donc c'est tout des pilotes de Superbike, de Promosport, et donc ils viennent bénévolement donner un coup de main et encadrer les pilotes débutants. Donc voilà,
il y a des exercices, on s'arrête, on fait un briefing, on étudie les positions sur la moto, on étudie par virage, comment ça se passe?
Alors, tout d'abord, on fait un briefing de sécurité au matin pour savoir comment rentrer, comment sortir de piste en sécurité, comment se comporter en piste en sécurité. Et après, j'ai engencé des plots avec des codes couleurs sur la piste. Comme ça, on sait comment, à quel endroit on doit déclencher son virage, à quel endroit on doit prendre le point de corde, à quel endroit on doit sortir. Tout ça, ça permet d'avoir une lecture de piste. Plus facile pour le pilote, je dirais novice. De toute façon, quand je dis pilote novice, c'est pas voilà, c'est pas une personne qui vient d'avoir son permis. Ça peut être une personne qui a 20 ans de route,
mais qui a jamais été à rouler sur
voilà,
le circuit.
Voilà,
ou très peu.
Ouais. Ça permet d'ouvrir la piste aux gens, mais vraiment tout le monde est à
tout
âge.
Et de comprendre comment ça fonctionne la piste.
Ouais. Parce que toute la largeur de la route, les gens qui sont habitués à rouler sur la route classique, ils n'ont pas cette impression. Moi, j'ai conduit une fois sur une piste, j'étais largué, mais largué,
ben oui,
largué
ben oui.
Alors, parce que j'avais pas cette.
C'est
j'avais
ça.
Peur de gêner en plus.
C'est ça. Il faut savoir que sur la route, on passe son temps à éviter les conneries des autres, ou alors l'infrastructure. Et après, à un moment donné, on commence à prendre du plaisir quand même quand on se sent seul, et puis voilà, qu'on voit une petite ligne droite, tout en sachant que là, sur la piste, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaque d'égout, il n'y a pas de bande blanche, tout va dans le même sens, et surtout, il n'y a pas la marée chaussée qui sont là pour vous dire, vous voulez trop vite ou pas assez vite. Donc ça, c'est vraiment un truc très intéressant. Le plus aussi du Star Team, c'est qu'il y a un photographe. Il y a des photos gratos, donc ça, on remercie la photographe. C'est une demoiselle cette année qui vient de nous rejoindre. Et donc, j'espère qu'elle nous suivra l'année prochaine. Mais normalement, voilà, c'est comme ça que ça va se passer.
C'est bien ce que je disais, hein, un camion, deux camions, maintenant un photographe. Mais ça va s'arrêter où?
Mais tu vas t'y mettre, toi, à la piste.
Allez, moi aussi, peut-être aussi,
ah,
je vais
bah,
venir.
Quand même,
bien sûr. Bon, allez, la première date du calendrier, c'est Follembray, c'est le 27 avril.
Oui, tout à fait. Donc,
un petit circuit coincé dans l'Aisne.
Ouais, c'est ça, entre les
beau.
Armes, bien sympathique.
Un circuit sympathique.
Ouais. Assez rapide quand même, hein,
ouais.
Parce que,
ouais,
je veux dire,
droite,
voilà,
ouais.
Voilà, puis il y a quelques parties techniques aussi pour travailler. Et encore une fois, il ne faut vraiment pas avoir peur.
Alors,
on
va essayer de changer, parce que ça tombe. Au moto, ça se tombe dans le salon du motoclub de Pécancour.
Oui.
Ah,
donc,
mais ils ont changé la date.
Parce que cette année, ils ont changé la date, Pécancour.
Ouais. Tout à fait. Donc, on risque de décaler un autre samedi.
Décaler le samedi, oui.
Mais voilà. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter. Follembray, c'est un petit circuit très rapide, très technique et qui permet de bien évoluer sur la piste.
Bon, après, le circuit du coin, hein, ici, Croix-en-Ternois.
Croix-en-Ternois, hein. Oui. Et d'ailleurs, cette année, on a réussi à avoir un dimanche. Je les remercie énormément par rapport à ça, parce que c'est très dur. Hein. C'est un peu la bagarre un petit peu avec tous les organisateurs, même si je m'entends bien avec tous les organisateurs du Nord-Pas-de-Calais. Et je leur fais un petit coucou. Mais voilà, donc on a pas mal de dates à Croix-en-Ternois parce que ça intéresse tout le monde. C'est un circuit facile. Et je veux dire, les gens, même ceux qui viennent voir, ils sont à l'intérieur.
On voit tout. Une fois qu'on est en haut, là, on voit tout le circuit. C'est vachement agréable.
C'est ça. Donc tout
ça
en sécurité.
Donc 29 avril et 20 mai.
Oui.
Donc deux sessions à Croix-en-Ternois, à venir Clastres.
classe, tout à fait. Oui.
D'être pas encore déterminé.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont en changement. Et alors, d'un côté, ils augmentent les tarifs. De l'autre côté, ils ont fait une restructuration. Ils vont aussi aménager les paddocks. Donc, je pense que c'est pour aussi faire avancer les choses. Et ils ont compris que ben, les gens venaient de plus en plus sur circuit. Ça intéresse de plus en plus. Donc, du coup, ils investissent un peu. Et là, forcément, ils auront des dates qui vont tomber un petit peu plus tardivement que d'autres circuits. Donc, on les aura avant fin de semaine.
D'accord. Et les tarifs, ça dépend des circuits, alors
Oui, ça dépend de l'infrastructure, des circuits, de la notoriété du circuit. Je dirais, là, dans notre calendrier, c'est Carole qui est l'un des plus chers, forcément. Il est affilié aussi FFM, tout comme Courant-Terrois, vous allez me dire. Mais bon, voilà, ça reste un circuit parisien qui est un peu plus, je dirais, enfin, il y a un peu plus de monde qui y va. Donc, forcément, les tarifs sont un peu plus hauts.
D'accord. On retourne le 25 et 26 août, Croix-en-Ternois, forcément.
Facile, voilà, hein, c'est voilà. Dimanche, lundi.
Donc, Carole, on vient d'en parler.
Oui.
Et on termine le 23 septembre, toujours à Croix-en-Ternois.
Voilà, c'est ça, on termine.
Pour vraiment être sûr qu'on a bien appris la trajectoire.
C'est ça.
De la fin de ligne droite, tu sais, là, ce truc-là, où il faut tourner.
Ouais, l'épingle.
Parce que si on ne tourne pas, on se paye les pneus. Hein.
ouais, non, c'est certain. Donc, après, bon, voilà, nous, on terminera là. On essaiera. Avec Max et Saras, on essaiera de ramener un pilote de renommée. Coralie, t'as eu le message. J'espère que tu vas tout faire pour nous en trouver un. Coralie, c'est la gérante de Max et Saras, très gentil. Et cette année, j'aurai la chance de pouvoir vous être. C'est un peu le privilège que je vous donne, c'est-à-dire que j'ai re-signé pour BMW. Je vais avoir la toute nouvelle S1000 RR 2019 quand elle sortira, entre parenthèses, parce qu'elle arrive que mai-avril, donc j'espère l'avoir avant. Et donc, du coup, ben voilà, vous allez pouvoir rouler avec moi et je donnerai cours, des petits cours comme ça aux pilotes qui viennent avec nous.
Bon, le Star Team Racing est vraiment sympathique aujourd'hui.
Très gentil.
Parce qu'il il offre. Alors, deux sessions, deux
journées complètes.
Deux journées complètes. Hein.
Oui.
Alors, à choisir hein, dans le calendrier.
Voilà. Donc, je précise juste qu'il faut venir avec sa moto. Je précise aussi qu'il faut venir quand même avoir une combinaison. Voilà, ouais. Une combinaison, donc deux pièces en cuir, deux pièces zippées. D'accord, bien zippé parce que c'est un, voilà.
Et, une dorsale.
Ou une pièce dorsale obligatoire. Ouais. Maintenant, les débutants, quand ils l'ont directement dans le cuir à l'intérieur, bon, ça passe. Hein, voilà. C'est juste pour montrer l'exemple. Et bien sûr, tout l'équipement standard hein, qui est casque, gants et autres.
Voilà. Mais c'est pas. Il faut répondre à une question.
Ah bah
voilà.
Oui, forcément. Madame la présidente.
Madame la présidente.
Voulez-vous dire
la question du Star Team Racing.
Oui.
Alors, voulez dire la question.
Quelle place que Cédric a terminée à la première course de Croix-en-Ternois?
Oula, c'est compliqué, non?
Non. Ah
hein. Bah non, c'est la toute première course en plus.
Et ah mais en quelle année?
En 2018. Donc ouais, j'ai fait un
bouquet. Moi j'y étais.
Bonne petite place là-bas.
Si vous allez sur le Star Team Racing, vous allez vite trouver. Hein.
Ah bah je sais.
Tu sais, toi
je sais.
Les photos, tout ça, il y en a eu. Hein.
Mais est-ce que les auditeurs, ils savent?
Ah bah je sais pas. Écoute, alors 0320 91 24 00 pour donc aller essayer sur la piste avec Cédric Févé. Hein,
vous avez droit à plusieurs réponses.
Et vous avez droit. Alors vous avez. Il y avait combien d'engagés? Il y a trois places. Alors. Il y a le podium, il y a trois places.
Ouais, mais bon, ça ne veut pas dire que je suis resté sur le podium. Alors, l'ami, je lui ai bien. Il est fort. Mais je l'adore.
Bon, allez, on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Oui.
Salut les amis, c'est James Québec et vous écoutez Radio Campus, la station rock'n'roll de Lille. Yeah!
As a bale of hay, and I don't care who knows it. I'm as redneck as a rodeo. My disposition shows it. I got a tricked out boat before that'll flat blow off your doors. And I like cornbread. I like clinging to my God and guns. Just to be emphatic, I'm a NASCAR racing maniac and a Tennessee Vols fanatic. I like Merlin, George, and Hank, and you take that to the bank and tell them what I see. Now I can tell by looking you're a smarter man than me, but I don't care about your education. I ain't impressed with your degrees, and if things start going wrong, just like that old country song, I think you've been leaving this long ahead country for long. Don't you give me no limp, cause you might get careless and you might let something slip. And I might just twist off and lose control. 'cause I'm a country boy, and that's just how we roll. Well, America's the greatest. We just got so much to give here, and I don't blame nobody else who wants to come and live here. And as far as I'm concerned, just get in line and wait your turn. Come on down and get you some. Well, welcome to America. I'm so glad you could arrange it. We like it just the way it is, so don't go trying to change it. If you can't eat and sleep and breathe it, if you don't love it, you can leave it. Go back where you come from. And don't you give me no lip, 'cause you might get careless and you might let something slip. And I might just twist off and lose control, 'cause I'm a country boy, and that's just how we roll.
Voilà, au téléphone, nous avons Philippe Bideau. Philippe, bonjour. Ah, on a un problème de téléphone, décidément. Il y a des jours comme ça, voilà.
Ah bah,
on va revenir donc sur les Grands Prix Moto. Donc, parce qu'aujourd'hui, le sommaire et le magazine, on parle de cette saison 2018.
Qui se termine aujourd'hui.
Alors, qui se termine aujourd'hui.
Grand Prix de Valence.
On attaque presque la troisième demi-heure. On parle un petit peu de ce qui va se passer l'année prochaine.
Ah oui.
Alors, avec peut-être en Moto 2, le nouveau moteur Triumph, là.
Ah, ça, c'est en Moto 2, oui.
Oui, en Moto 2, oui.
Moto 2, ouais. Nouveau moteur, donc 3 cylindres, Triumph. Là, ça va être un peu particulier parce qu'ils vont récupérer aussi tout ce qui est électronique, qui n'y avait pas du tout sur la Honda.
Ouais, pour l'instant, sur la Honda, il y avait zéro électronique. D'ailleurs,
zéro électronique.
Ça faisait des belles images parce qu'on les voyait en dérive. Hein. C'était sympa.
Ouais,
hein.
Ouais. Ouais. Mais c'est un moteur très linéaire, la Honda. Hein. Donc, le Triumph sera beaucoup plus brutal. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent un peu plus d'électronique dessus, hein. C'est possible. Donc voilà, il paraît qu'il est moins encombrant que la Honda. Donc le poids, ça sera à peu près pareil. Donc après, voilà, il faudra voir qui pourra faire marcher cette machine, parce que comme l'électronique, il y a des gens qui s'adaptent très vite à l'électronique et d'autres moins. Ça va un peu changer beaucoup, beaucoup de choses, je pense.
L'électronique, elle sera moins évoluée qu'en MotoGP. Hein. Non, il y aura l'antipatinage réglable. Mais
c'est sympa de revoir une marque anglaise revenir donc à ce niveau-là de la compétition, quand même.
Oui, oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça fait... Depuis combien de temps il n'y a pas eu de Triumph sur un circuit?
Et l'anglaise et Norton. Hein, et de,
donc là, il y a un moteur Triumph sur un circuit.
Ouais. 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 Et donc, alors c'est bien parce que apparemment, les fabricants du châssis Kalex, Sutter, Mistral, Tech 3, vont se réjouir hein, de cette évolution qui est programmée.
Tech 3, c'est fini.
Tech 3, c'est fini.
Parce qu'en fait, du coup, que le team Tech 3 passe
chez KTM,
voilà. Ils vont prendre le châssis KTM.
KTM. Ouais.
Donc ils abandonnent leur châssis, qui fonctionne pas mal, hein, parce qu'ils sont pas mal débrouillés avec
Gartner,
ce châssis.
Gartner, il marche bien aujourd'hui. Ouais. Ouais. Au niveau qualification, il avait fait des bonnes qualifications. Ouais. Et même en Grand Prix, ils ont marqué quand même pas mal de points.
Donc un moteur qui devrait dépasser les 130 chevaux.
Oui, un petit peu plus puissant, plus puissant, et puis donc 3 cylindres, donc avec un bruit différent aussi, ça va être sympa aussi ça. Hein.
Alors je ne sais pas si on avait, on cherchait le bruit de la Triumph, Laurent, tu n'étais pas trouvé. On voulait passer un peu ce fameux bruit, parce qu'il paraît que c'est pratiquement échappement libre.
Alors c'est échappement libre sur piste, oui, mais le son entre le 4 cylindres et le 3 cylindres est un petit peu différent, et c'est sympa, ça change un peu, ça va faire un petit peu de... C'est un peu moins courant et donc ça va faire un, ouais, c'est un beau son.
Donc quels sont les pilotes qui sont cette année et qui vont rester en 2019 en Moto 2?
Ah, parce qu'il y en a un petit paquet.
Quartararo, il monte en MotoGP.
Voilà. Les deux premiers.
Le frangin Marquez, mais lui, il reste.
Il y a Banania, ils sont en MotoGP. Oliveira, il s'en va chez KTM. Il y a Brad Binder.
Il y a Brad Binder qui va rester.
Qui va rester sur KTM. Il y a.
Et Brad Binder, normalement, je pense que ça doit être.
Son coéquipier, ça va être Bezzecchi, qui est vice-champion du monde de Moto 3.
Oui.
Qui va être chez KTM.
Mir ne restera pas. Celui qui a fait le meilleur rookie en Moto 2, il passe chez Suzuki officiel en Moto GP.
Ouais. Par contre, notre Français Jules Danilo. Là,
alors Danilo, il a
marqué aucun point.
Qu'est-ce qu'il va faire cette année? L'année prochaine, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Il a du mal. Hein.
Donc Jules Danilo est notre petit ch'timi de la région ici.
Ch'timi d'adoption.
D'adoption, voilà. Et effectivement, zéro point. Donc, il est même au classement, il est dernier dans le classement.
Ah oui,
dans la liste.
Voilà. Un Rossi peut en cacher un autre. Il y a Marini, qui est
le demi-frère
de Valentino Rossi, qui a gagné son premier Grand Prix et qui a été qualifié en première ligne,
position. Il a fait la pole à Valence.
Donc on sait bien.
J'ai laissé du prototype.
Ah, t'as laissé du prototype du Triumph.
Voilà.
Ah ben écoute, allez.
Oh, bah, écoutez ça, alors.
C'est le moteur Triumph. Ouais.
Damon Hill just jumps off it. And now I'm riding it.
C'est parti là. Hein.
Wow.
Enfin voilà, ça donne une idée.
Il n'y a pas de bonnette. Il n'y a pas de bonnette pour le vent. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Donc, alors, ce qui est inquiétant, effectivement, tu le disais en début d'émission, il n'y a plus de relève française. Hein, en Moto 3, il n'y a plus rien.
En Moto 3, il n'y a plus de pilote. La Moto 2,
Quartararo va monter en Moto GP. Et il va rester Danilo, mais.
Soit il n'a pas une équipe performante, soit il n'arrive pas au niveau, il n'a pas percé, il n'a pas réussi son coup.
Sa première année aussi en Moto 2. Hein,
oui, c'est vrai.
Faut voir, s'il ne revient pas ou pas.
On va essayer d'avoir.
Il y a quand même un mec qui est étonnant en Moto 2, c'est Mir d'ailleurs. Ils l'ont chopé pour le monter en Moto GP. Parce que Mir était champion du monde l'an dernier en Moto 3, et en Moto 2, il a été excellent. On a rarement vu un pilote aussi bien s'adapter à une nouvelle catégorie.
Mais il y en a certains qui lui reprochent de ne pas avoir gagné de Grand Prix, contrairement par exemple à Vinales, qui avait gagné deux Grands Prix avant de monter.
C'est très dur en Moto 2.
Je m'excuse de vous interrompre, messieurs, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au circuit et qui voudrait aller tâter un peu du bitume, l'asphalte sur.
La relève arrive.
Ça n'arrête pas de téléphoner, de semer. Donc Marjorie, elle va devenir la présidente, va nous donner ça chauffe. Mais donc peut-être qu'on a peut-être un gagnant déjà, voilà.
Ça y est, donc bravo à toi, à Laye Arnaud, donc il a gagné la journée
de roulage. Bravo, voilà.
Bravo Arnaud.
Bon voilà, très bien. On va passer un morceau de musique et on va essayer de parler des 20 ans du salon Moto Légende.
Oui, on va y arriver.
On va y arriver. Hein.
When that like this makes diamonds scary. Digging up bones, better left buried. Kicking them stones in love's cemetery. Ashes to ashes and dust to dust.
Voilà, nous, normalement, on devrait avoir Philippe Bidot au téléphone.
Oui,
oh, bonjour. Enfin, c'est oui, fantastique. Ouais. La quantité d'énergie pour t'avoir au téléphone, ouais. C'est incroyable. Bon, 20 ans de... En fait, on parle de Grand Prix aujourd'hui, on parle de l'arrivée, le retour de Triumph dans la course, hein, parce que Triumph en Moto 2, ce sera les moteurs de cette marque, hein, qui seront utilisés. Et cette année, au Salon Moto Légende, il y a une superbe exposition de Triumph aussi.
Oui, avec plein d'histoires à raconter autour de cette marque-là et des motos qu'on voit rarement, voire jamais, puisque pour certaines, elles sortent tout juste de restauration, quoi. Donc, notamment une bécane qui a marqué l'histoire du cinéma, puisque c'est celle avec laquelle... Enfin, avec laquelle... Sur laquelle on voit Steve McQueen dans La Grande Évasion. Voilà.
Ah oui.
Même si c'est pas lui qui fait le saut.
C'est pas lui qui fait le saut, ouais, hein, en fait.
C'est cette moto-là. Non, c'est Bud Ekins, le cascadeur.
Et en fait, il y a une erreur aussi dans ce film, parce que comment ça se fait que le militaire allemand, il roule en Triumph
C'est régulier, hein, ça.
Ouais. C'est vrai. Ils auraient pu prendre un BM mono, mais je pense qu'il n'aurait pas eu assez de patates pour faire le saut dessus des barbelés.
T'es d'accord avec moi?
Oui, simplement d'accord.
Bon, alors pour ses 20 ans, hein, 20 ans, il va avoir un grand gâteau d'anniversaire avec 20 bougies.
Ouais, j'espère bien.
Ouais, voilà.
Au milieu, il y aura une petite figurine de Giacomo Agostini qui est notre invité, quoi, pour marquer là.
Voilà, Giacomo sera là, oui.
Ouais, pour dédicacer. Là, notamment sur le stand Yamaha, et puis il faudra suivre les appels micro parce que. Il va se promener, hein, comme nous tous, on va se promener aussi, et puis il sera là au gré des dédicaces. Je pense qu'il va accompagner certains de ses copains qui vont dédicacer aussi. Je pense à Jacques Bussier qui va dédicacer un bouquin sur le Titi. Donc, vu que l'histoire du Titi et Giacomo, c'est aussi deux histoires qui sont liées, il sera certainement là pour signer aussi, quoi.
D'accord. Ouais, ouais. Bon, c'est aussi c'est des stands, hein, aussi. Il y a une grande bourse de pièces.
Oui.
Hein.
Ouais, ouais. Bah, pour certains, la visite commence par là. Hein. Il faut pas se le cacher. Puis moi, je rentre par la bourse quand je fais mon petit tour. J'arrive par la bourse. Donc ouais, on est tous motivés pour trouver des pièces pour faire rouler nos bécanes. Et moi, le premier, ça m'est arrivé de faire des super affaires à cette bourse qui pourtant est pas loin de Paris, hein, puisqu'on est à Vincennes. Mais j'ai fait vraiment des bonnes affaires, quoi.
Voilà, donc ce salon, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est deux espaces séparés par une cloison, enfin un mur. Hein. Donc un côté donc bourse et un côté club.
Ouais, c'est ça, en fait. On est en fait un côté club. Le côté club, il a explosé sur même les pavillons annexes parce que on rentrait plus dans le pavillon principal. Donc on a alloué voici quelques années les pavillons. Connexe au grand hall pour pouvoir justement mettre les clubs à l'aise, quoi. Et du coup toute la partie marchande, bourse d'échange et professionnels qui vendent du consommable, vraiment là est à ses aises, tu vois. C'est
il y a même des marchands dans la cour maintenant.
Ça va s'arrêter où ce salon hein.
Mais par contre, il y a quand même un gros problème pour nous qui y allons là, c'est qu'on peut plus se garer hein, nulle part.
Oui, alors on a posé la question, est-ce qu'on a le droit de rentrer encore dans Paris avec nos motos? Parce que nous, on a des motos d'avant 2000.
Ouais. Mais non, mais c'est vrai, on peut plus se garer, on peut plus en bagnole, c'est même plus la peine, et en moto, il paraît qu'à Vincennes, ils sont chauds. C'est vrai.
Ils sont chauds, ouais. C'est vrai. Mais pour ce qui est de la circulation, le week-end, c'est autorisé hein, de rouler avec nos vieux.
Ah bon, le week-end, on a le droit.
C'est juste. Et même la nuit, tu as le droit à la nuit. C'est-à-dire que.
En fait, tu as le droit de polluer la nuit.
De 20h à 8h du matin, on a le droit de circuler avec des vieux trucs.
Non, mais ça, c'est une loi bizarre quand même.
C'est hein. Vraiment. Ouais. Bref, aussi, elle est identique par rapport à l'année passée, en 2017, oui, c'est l'étude Orsena proposera une nouvelle vente. Grande vente aux enchères de motos de collection avec la Ducati ayant appartenu à Johnny Hallyday. Il y a une Ducati 996. Johnny Hallyday avait acheté une...
Avec un grand guidon.
Et des franges.
Ouais. C'est vrai ça, c'est pas une...
Non, c'est pas une blague.
Voilà. Une fake news.
Non, c'est pas une fake news. On a les photos qui en attestent et il a eu plein de bécanes en fait.
Même si
tout au long de sa vie, il a surpoulu. Enfin, il y a toujours eu des Harley dans
son. Ouais, mais 900 Kawa, tout ça, on se souvient.
Voilà, il y a eu du 900 Kawa, il y a eu du Bolt.
Avec un Carnage Kings, là.
Il y a eu de la Japoto.
Il y a très longtemps, moi je l'ai vu sur une photo où il était sur une 125 Morini. Un capteur.
Alors, et apparemment aussi une mammouth, une 1200 TT S. Ouais, de 72.
Elle n'a pas appartenu à...
Ah non, ah bon. Ou encore, c'était marqué, ou encore la Munch oui, Mammouth.
Ah ouais, ça c'est exceptionnel d'avoir ça. Et
Lui c'est plutôt Depardieu.
Ouais, ça serait plutôt Depardieu.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ces bécanes qui sont quand même exceptionnelles, on peut le dire, il y en a pour tout le monde. Quoi. Il y a aussi, là moi, sur le catalogue, j'ai vu une Yamaha XS, première génération, qui ne paye pas de mine.
C'est 50 XS.
Elle est 71. Elle est complètement d'origine et elle est estimée entre 3 et 4 000 euros. Donc,
il y en a pour tous les prix.
Voilà, il y en a pour tous les prix et c'est tant mieux.
Il y a des prix qui s'emballent quand même, selon Moto Légende. Hein.
Il y a des prix
quand on voit les 3 cylindres, la Kawa. Là, on commence. Et même les 750 Honda aussi.
Ouais, ça fait peur. Bon, en même temps, voilà. Ce sont des motos qui ont été vraiment qui ont marqué leur époque, qui ont apporté des choses.
Exactement, c'était un mythe, donc, c'est toute une époque. Enfin, voyageant le temps quand on la regarde.
C'est ça.
Voilà.
Très bien, on va parler un peu des horaires et des tarifs. Donc c'est les 23, 24, 25 novembre, donc le week-end prochain. Ouais, le 23, c'est à partir de 17h.
C'est de 17h, alors attends, parce que je reprends mes notes, parce que c'est pareil, moi, j'ai pas quand même la mémoire absolue.
Vendredi soir, oui, je crois. C'est
17h, vendredi soir.
Ouais. Voilà. Ouais. C'est en nocturne, donc alors, qu'est-ce que j'en ai fait?
Ça ferme à quelle heure? 21h30?
C'est pas grave, Philippe, moi je les ai, moi, les notes.
Voilà, donc 11h22h, c'est 11h22h le 23. Donc
11h22h.
Tu peux venir manger un casse-croûte à midi. Et
c'est pas mal.
Ça change tout, ça.
Ouais, ça c'est pas mal.
Pour nous, ça nous intéresse.
Ouais.
Voilà.
C'est de 10h à 19h, hein, samedi.
Oui.
Et 10h à 18h le dimanche.
D'accord, très bien. Les tarifs, c'est 16 euros.
C'est 16 euros.
La journée?
Ouais.
14 euros en pré-vente, on peut encore prendre en pré-vente?
C'était jusqu'au 11 novembre.
Ah, 11 novembre,
faut
essayer,
oui. Peut-être que ça marche encore, j'ai pas testé.
Et entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour les moins de 12 ans, oui.
Et on rappelle que les chiens, vous n'aimez pas les chiens apparemment là-bas, donc ils sont interdits même en laisse.
Bah, y a trop de roues de moto pour les, pour les chiens, ils savent plus où donner de la patte.
Moto salon, on n'aime pas les chiens.
Faut pas tout mélanger non plus. Hein.
Ouais. Par contre,
faut venir avec vos
chats.
Les kangourous, on peut venir avec les kangourous.
Les kangourous, ça c'est Cédric Fivet, c'est notre pilote régional ici.
Bonjour. Donc il n'y a que les chiens qui ne peuvent pas venir, le reste peut.
Bon ben, alors, le salon, hein, salon Moto Légende est sympa et offre des entrées donc pour le week-end prochain, alors peu importe, hein, soit vendredi, samedi ou dimanche, voilà. Nous avons des entrées à vous offrir, chers auditeurs et auditrices, forcément. Donc ce sera toujours au 03 20 91 24 00. Voilà, nous avons une certaine quantité d'entrée à vous offrir. À tout de suite, précipitez-vous sur le téléphone. Merci Philippe d'avoir répondu à nos questions. Et merci de t'avoir eu au téléphone, parce que ça n'a pas été facile. Quand même.
Ici, finalement.
Merci, bon dimanche.
Et bon dimanche.
Ouais.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, on va revenir avec Cédric Fievet et puis Madame la Présidente qui a beaucoup travaillé au téléphone aujourd'hui.
Débordé aujourd'hui.
Voilà, il nous reste des places hein, pour Motosalon qu'on va vous envoyer. Donc il y a déjà quelques places de.
Il faut téléphoner gagner, pendant les morceaux de musique.
Mais pendant les morceaux de musique ouais. Parce que on a des petits problèmes de téléphone. Mais on voudrait revenir un petit peu sur les sessions de roulage avec Cédric et puis le Racing Tartim. Tartim, pas
Racing.
Tartim,
Racing.
Ça y est, je suis complètement paumé. et donc. Voilà, donc on vous proposait encore donc une nouvelle fois. Hein, vous avez deux places à offrir.
Oui,
ce n'est pas des places, c'est des journées de roulage. Une journée de roulage.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà.
Ouais. Et donc là, cette année, enfin l'année dernière, on en offrait une. On en a offert une. Je trouvais que c'était un peu juste. Madame la Présidente a dit Cédric, quand même, on passe à la radio, on offre deux.
Tout va par deux.
Donc cette année, c'est deux. Donc voilà, donc Marjorie, je te laisse poser la deuxième question qui est un peu plus compliquée, je dirais. Non,
non, c'est simple hein, quand bon, même. Quelle est la date de notre premier roulage à Croix-en-Ternois dans le calendrier 2019 C'est ça, on en a parlé au début. Hein.
Bah tu dis rien, Lamy, tu dis rien sur ce
coup.
Tu dis juste le numéro de téléphone sur le coup.
Moi, j'ai 2019 alors.
Surtout,
voilà.
N'hésitez
moi, j'ai 2019.
Pas à appeler au 03 20 91 24 00.
Voilà. C'est dit. Et puis, il nous reste quelques places aussi pour Moto Salon. Dépêchez-vous parce que ça va très vite. Voilà, on revient, on passe à la Moto 3.
À la Moto 3, oui. Et qui a gagné la Moto 3 ?
Alors, j'ai ma fiche. Tu sais, là, je suis un peu débordé aujourd'hui. Là.
C'est Martine.
Oh, voilà. Martine.
Enfin, il avait fait 9 pôles en 2017.
Et deuxième, c'est Marco Bezzecchi.
Voilà. Alors, Martine, il avait fait 9 pôles en 2017.
Bezzecchi.
Il avait une seule victoire. Dernier Grand Prix de la saison, l'an dernier, il avait gagné à Valence. Et Martine, il a réussi à concrétiser cette année. Parce qu'en fait, il faisait toujours les pôles, mais il n'arrivait pas à gagner en course. Et le dernier Grand Prix l'an dernier à Valence, il a réussi à faire la pole et à gagner. Et là, ça virait son chat noir. Et cette année, il a pu concrétiser et il a décroché le titre. Mais la grosse surprise, effectivement, c'était Bezzecchi. Parce que Bezzecchi, l'an dernier, Bezzecchi, il était 23e.
Oui, mais l'année dernière, Bezzecchi, il n'avait fait qu'une partie. Il n'avait pas fait tout le championnat. Il était arrivé en cours de route, en remplacement.
Et surtout, il avait une main draw. Et il avait une main draw. Et là, sur la KTM, ça a tout changé. Et là, on se rend compte que ça compte, hein, la moto en moto 3. Hein. Il y a des grosses différences.
Ouais.
Et l'année prochaine, d'ailleurs, il va être pilote KTM, toujours, chez Tech 3. Mais en moto 2, il va passer en moto. Voilà.
Alors j'ai vu, il y a un point de différence. Si jamais Martine chute aujourd'hui,
oui.
il y a un point de différence entre les deux. Donc,
c'est fait, il a gagné.
C'est bon, il est champion.
Non, mais je dis, avant qu'on commence l'émission, voilà.
D'accord. Mais par contre, c'était déjà fait du Grand Prix précédent.
Ah, c'était déjà fait. Donc j'ai une fiche qui n'était pas bonne.
Par contre, on a parlé tout à l'heure du CEV, qui est le vivier. Du Moto 3, c'est-à-dire que le CEV c'est le championnat espagnol en fait, hein, pour les jeunes de 14-15 ans, et c'est eux qui déboulent en Moto 3. Et puis il y a un deuxième vivier maintenant,
championnat d'Italie.
À ce moment-là, il y a un troisième vivier, c'est ce qu'on appelle le MotoGP Rookie Cup. Alors, ça, c'est un truc où il y a c'est KTM qui organise ça, hein, avec Red Bull.
Il me semble qu'il y a un Belge aussi là-bas qui roule un petit jet.
Dans ce vivier, il y a deux frangins, deux jumeaux. C'est des Turcs.
Ouais.
Et ça s'écrit Can Onku. Donc Can C-A-N et Onku O-N-C-U. Mais ça se prononce Chan Onchu.
Oh là là là.
Il a travaillé là. On sent qu'il a travaillé.
Ah, oui. Ça ça va bien. Parce que j'ai déjà tartine racing.
Ça a travaillé. Et ça a travaillé pour ça a travaillé pourquoi? Parce que moi je suis à chaque fois ce championnat et je regarde et les deux frangins ils trustent les premières places toujours dans ce Rookie Cup. Et du coup pour le dernier Grand Prix il est wildcard. Donc ils l'ont donné. Il a pris le départ là de son premier Grand Prix Moto 3 aujourd'hui de sa carrière à Valence et il s'est qualifié quatrième malgré des conditions incroyables. Et ça, vous savez quoi? Il a gagné. Il a gagné. Donc ce mec qui sort de nulle part, qui a 14 ans, il a gagné devant toute la crème du Moto 3 aujourd'hui à l'instant là. Il vient de gagner. Donc voilà, moi j'avais repéré en me disant, ce gars-là, il va faire quelque chose. Et son frère aussi va faire quelque chose, parce qu'il a un frère jumeau, c'est le même, ouais. En couleur. Et donc,
il a gagné l'année dernière.
Et donc du coup, il y a peut-être un guidon pour l'année prochaine en Moto 3
Du coup, lui, il a un guidon en Moto 3, mais son frère, non. Mais je pense que bientôt, il va trouver.
D'accord.
Je pense que oui.
Ouais. Donc il va y avoir des on-chou. On va entendre des on-chou partout.
Je vais m'exercer. Et on va réentendre donc l'hymne national turc.
C'est bien.
Et la dernière fois qu'on l'avait entendu, c'était avec qui?
C'est avec
Sufoglu.
Qui est dans la catégorie 600 en super sport.
Il était.
En...
Ouais. Oui. Mais il a fait du MotoGP. Hein.
Mais
ça n'a pas marché aussi.
Non. Voilà. Il avait fait de bons essais, mais il s'est cassé la figure plusieurs fois et il n'a pas marché.
Vois que Marjorie. C'est bon, Marjorie, on a les gagnants. On peut.
Bon,
voilà. Donc, on passe à un morceau de musique et on donne le résultat juste après. Ouf. Il nous reste encore pas mal de minutes quand même. On pourrait peut-être parler de cette Anna Carrasco, première femme championne du monde quand même.
Voilà. Donc, donc là, on parlait aujourd'hui du championnat MotoGP. Donc MotoGP, il y a MotoGP, Moto2 et Moto3. Et puis, il y a un championnat parallèle avec des motos plus dérivées de motos de route qui s'appelle le Superbike. Et donc, on a un représentant ici qui fait le championnat belge. Et donc, c'est des motos dérivées de motos de route. Ce n'est pas des prototypes.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc, dans cette catégorie-là, ils ont essayé d'étayer un petit peu. Donc ils font le Superbike qui est en 1000, ils font le Supersport qui est en 600 et ils ont fait un Supersport 300 qui est une catégorie pour d'accession. Et Anna Carrasco a remporté devant 35 et 36 garçons le championnat, et elle n'était pas la seule fille à concourir. Il y avait aussi une autre espagnole, Maria Herrera, et qui a fini 13e, elle, donc tout à fait honorable. Et Maria Herrera, elle va faire le championnat Moto E aussi l'année prochaine. Ce truc Moto E, du coup, il y a plein de gens qui...
Justement, la e-moto, très... petite question. Ouais. Parce que là, je vois la FI, la F1 mais électrique, partent avec deux bagnoles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant la course, la batterie se décharge, ils s'arrêtent, ils reprennent une autre voiture. Ouais. Est-ce qu'en e-moto, ce sera pareil ou pas ?
Par contre, ils font trois tours.
Non, sans déconner.
Ils font pas la même. C'est pas la même catégorie et les motos sont pas pareilles.
Ils font quelques tours en fait.
Ils font quelques tours, mais ils changent pas de bécane. Ben, c'est-à-dire qu'ils restent sur la même moto. Et là, ils vont devoir gérer peut-être leur puissance.
Ils vont passer ça entre milliers deux dans un petit interstice. Ça va pas durer longtemps parce qu'ils ont pas d'autonomie.
D'accord.
Donc sur certains circuits, ils vont réussir à faire 6 tours, sur d'autres 5, sur d'autres 3.
Ça va être intéressant. Aller sur internet pour voir un peu comment ça allait se passer. Justement, on s'est dit combien de tours l'autonomie de ces batteries. Alors c'est entre 7 et 10 tours selon la longueur du circuit. Voilà. Et pas prévu de ravitaillement et de changement de batterie.
D'accord.
Donc il ne faut pas arriver à ça au Grand Prix. Parce que si tu loupes 3 tours, tu as pratiquement 50% en moins.
Voilà. D'accord.
Et alors, vous avez déjà été dans le métro de Lille ? C'est le même bruit. Ouais, exactement.
Donc c'est un bruit mécanique.
Ce sera embêtant à la radio parce que tout à l'heure on a passé le bruit de la moto 2, le nouveau moteur Triumph.
Ça va être silencieux.
Laurent va prendre du son dans le métro de Lille.
C'est pas grave.
Voilà, donc on assiste au premier championnat.
Ça équivaut à combien de puissance du coup ?
Alors, moi,
130, 140, 150 chevaux ?
C'est 123, alors c'est en kilowatts.
D'accord,
c'est 120 kilowatts.
Ouais, donc ça équivaut à une
600. Si tu as un radiateur électrique chez toi, tu dois savoir à peu près 100 watts ou 200 watts.
Je me verrais mal monter sur un radiateur électrique.
En fait,
ça chauffe les fesses.
Ça fait 147 chevaux.
D'accord.
Pour une vitesse bridée, ils disent à 270 km/h quand même.
Oui, ça va vite.
Un couple de 200 mètres newton,
énorme.
Et donc le 0 à 100 km/h atteint en 3 secondes.
Il y a une boîte de vitesse ?
Je ne peux pas te répondre. Au niveau des pneus, ce sera toujours Michelin.
D'accord.
Je ne sais plus, j'ai entendu ce week-end à la radio, à la télé, sur Eurosport, qu'il y avait un pilote qui s'était inscrit justement en Moto E et qui avait plus de 40 ans.
C'est Giberno.
40 ans, c'est pas vieux. Il y a Rossi qui est là, le 39, il va avoir au mois de février.
Il a couru avec Giberno.
De Pugnet, il n'est pas tout jeune non plus.
C'est vrai.
Il y a longtemps qu'il n'a pas fait gravier.
Ils ont été recherchés tous des vieux pilotes.
C'est vrai qu'il fait.
C'est pour ça que je pense que.
Il a fait gravier en endurance.
Moi, c'est pour ça que je pense que Siméon risque de faire quelque chose de bien.
C'est vrai, tu crois,
parce que là, il ressort quand même pas trop mal en MotoGP à la fin de saison. Il est pas trop. Enfin voilà, il a marqué des points, il commence à bien évoluer.
Il a marqué un point.
Mais c'est très dur en GP. Et là, je me dis qu'en e-moto, ça redémarre de zéro, tout le monde sera à plat, tout le monde au même niveau. Je pense qu'il pourrait peut-être faire quelque chose. J'ai confiance en lui.
Après, on va refaire une émission plus tard sur l'électrique.
Tout à fait.
Tu sais, on n'y croit pas trop ici. Voilà. Donc voilà.
Moi, j'ai déjà essayé l'électrique. Mais en carte.
Mais c'est
très violent. Il n'y a pas de bruit, on ne se rend pas compte, mais pour finir, on va très vite.
Mais tu sais qu'il serait capable de te mettre un faux bruit, enfin un haut-parleur, et puis avec un bruit.
La Harley Davidson, tu en parlais tout à l'heure, c'est ce qu'ils vont faire. Tu peux choisir le son en fait.
Ah, tu choisis le son.
Tu choisis si tu fais gros mono, si tu fais bicylindre.
J'ai un peu le son, ça fait rire.
C'est vrai, t'as ça?
Ouais.
Le retour de l'espace.
Ah mais carrément, on dirait un avion.
Je suis ton père.
Mais attends, c'est un décollage de
ouais,
de machin.
Un avion, ouais.
Ah non, attends. Ah ouais, non, mais il est sur l'écran, je la vois, ouais, la moto, ouais, ouais, effectivement. Ouais.
On dirait une turbine.
Ouais, bon, on dirait un avion. C'est ouais, pas, c'est bon, bah, moi, je sais pas, mais bon, ça me botte pas. Hein. Après, ouais, hein, voilà, faut voir. Voilà. Allez, on revient donc sur tout ce qui va se passer en 2019, hein, tout ce qui va se passer, les transferts. Hein. Donc, oui, on a parlé. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur donc Zarco, hein, c'est dommage, hein, je pense que c'est du gaspillage.
Oui et non, je dirais que c'est un bon challenge. Au début de saison, là...
Il a 27 ans, Johan Zarco.
Oui, oui, je sais. Pour lui, je pense que c'est râpé. Mais au niveau du championnat, pour être champion du monde, j'y crois plus beaucoup. Mais gagner, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'évolution va faire en cours de saison. Il ne faut pas oublier que cette année, tous les pilotes, aussi bien Smith qu'eux, ont été tous blessés. Ils sont tombés. Callio, c'est pareil.
Ils n'ont pas eu de bol pour développer
la
moto.
Ils n'ont vraiment pas eu de bol pour faire évoluer. Et pourtant, dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les essais, on les remarque, ils sont dans les 10 premiers, hein, plusieurs fois, hein, en cours de saison. Hein. Ce qui est quand même une sacrée évolution vis-à-vis. Ça fait la deuxième année complète qu'ils font en Moto Grand Prix. Je trouve que c'est déjà pas mal.
Il y a une course qu'ils n'ont pas fait, même, il me semble. Il y a une manche qu'ils n'ont pas fait.
Une manche qu'ils n'ont pas fait.
Ouais, KTM, ils ont pas, y a une manche.
Bah, peut-être
ont pas
en fait. Angleterre où il pleuvait.
Il me semble. Hein. Ouais. Non, sûrement, mais il doit avoir une autre.
Même personne n'a rien roulé en Angleterre.
Donc voilà, moi personnellement, je trouve que c'est. Comment se fait-il qu'un pilote. Bah, on voit bien qu'il est performant, Johan Zarco.
Hein. Mais tu vois que KTM, ils ont pris Pedrosa comme.
Comme pilote d'essai.
C'est dingue, c'est dingue. Un mec comme ça. C'est fou.
Ouais, mais moins de stress et puis donc, voilà. Il se...
on en parlait dans le début d'émission. Donc Lorenzo coéquipier de Marquez.
Marquez, oui.
Ouais. Chez Yamaha, ça ne change pas.
Si, quand même un petit peu. Chez Yamaha, il y a Petronas maintenant.
Ouais. Ah Petronas, oui, mais l'équipe officielle.
Oui, l'équipe officielle, non.
Donc Rossi, dernière année.
Oui.
Il dit ça tous les ans.
2020, non, deux ans encore.
Encore deux ans, voilà.
Ouais. Tous les ans, il dit que c'est sa dernière année, il re-signe tous les deux ans.
Ah, il n'arrive pas à décrocher. Hein. Ouais. C'est une drogue.
Bah non, mais tant que ça roule.
Pourtant, je pense qu'il peut se permettre de décrocher. Hein.
Oui, mais il a toujours envie. Et il veut son 10e titre.
Oh, voilà. Nico, là.
Ah, si, il veut son 10e titre.
Il y a Marquez aussi. Il faudrait qu'il se blesse, Marquez.
Il y a les anciens qui s'en vont tout doucement, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi qu'il y a les jeunes qui poussent derrière, hein, et qu'ils arrivent. Et
là, puis chaque année, ils en prennent de plus en plus jeunes aussi. Hein,
c'est normal. Hein.
Vinales qui s'est empressé de signer, hein, on a parlé en début d'année.
Dès le premier Grand Prix.
Dès le premier Grand Prix, merci tout de suite. Hein. Ouais. Voilà. Suzuki qui avait demandé à Zarco de venir éventuellement. Si Suzuki se faisait pardonner.
Du coup, c'est bizarre, ils ont Rins et ils vont avoir Mir. Donc, eux, il faut qu'il n'y ait pas plus de 4 lettres, autrement, ils veulent pas du pilote, je crois. Ouais. Et donc, ils vont avoir deux jeunes quand même. Deux très jeunes, parce que Rins il commence à monter un petit peu en puissance, mais c'est un très jeune pilote. Et Mir il va découvrir la moto, il sort du Moto 2, il a fait qu'un an en Moto 2, il sort du Moto 3 où il était champion du monde, c'est vrai. Mais donc il est doué, c'est sûr, mais ça va faire quand même des très très jeunes pilotes. Donc ils ont misé sur les jeunes.
Le deuxième français, Quentin Raroux, on va.
Alors lui, il va récupérer la moto.
Parce que,
moi,
je me souviens que quand ce gars-là il est arrivé, il a gagné deux fois le tremplin là, en Espagne.
Ouais.
Hein, et après, quand il est arrivé, souviens-toi, il a déclaré à la presse que je serai champion du monde Moto 3, Moto 2 et Moto GP.
Il sortait du CEV où il avait tout gagné pendant deux années. Et puis, il a changé d'équipe tous les ans. En Moto 3 et en Moto 2, c'était compliqué. Là, cette année, il a quand même mis fin à la mauvaise série parce qu'il a quand même eu une victoire. Il aurait dû en avoir une deuxième. On en a parlé. Et puis, il a eu une deuxième place aussi. Avec le gabarit qu'il a physiquement maintenant, il n'était plus à sa place en Moto 3. Et il aurait fallu qu'il monte plutôt en Moto 2. Ça ne s'est pas produit parce que on espérait toujours qu'il cartonne étape par étape. Je pense qu'il peut faire quelque chose je crois qu'il peut faire quelque chose en MotoGP. Il sera pas ridicule. Il peut faire ce que fait Morbidelli. Il peut le faire.
Ouais. Il faut finir avec Ducati.
Ducati monte en puissance quand même.
Le deuxième pilote chez Ducati.
Ah oui. Petrucci.
Ouais, bah, Petrucci, ah,
Petrucci, ouais.
Ouais. Petrucci.
Avec très à l'aise de la pluie. Qui reste
il va peut-être commun, gagner aujourd'hui,
d'ailleurs.
Ouais.
Voilà.
Hein, il va peut-être gagner, Petrucci.
Oui, ouais, il est très possible, à l'aise de la pluie. S'il pleut beaucoup, il est devant. Ouais.
Bah, Zarco aussi, bon. Il marche assez alors, bien.
Zarco, il aime bien quand ça sèche.
Quand ça sèche.
Quand ça commence à sécher. Mais Petrucci, il aime bien quand c'est un fleuve.
Voilà, on passe à un tout dernier morceau de musique. Et puis après, est-ce qu'on a donné les.
Non, il y a le dernier qu'on voudra donner.
Non, on va faire après. Après le morceau de musique.
D'accord.
Et puis voilà, tout dernier. Voilà. Voilà, vous n'appelez plus pour les entrées motosalon, il n'y en a plus. Voilà. Et puis Marjorie va nous dire, la présidente... alors, j'ai dit,
Star Team Racing,
je ne vais pas dire. le deuxième gagnant pour cette journée de roulage.
Oui, alors c'est Doleg Aurélien.
Bravo voilà. Aurélien, bravo. Bon.
Bravo à toi.
Donc tu viens avec ta moto, ta combine, tes bottes, tes gants et tout,
oui,
hein, tout ce qu'il faut.
Oui, il y a tout ce qu'il faut, lui. C'est un pilote qui vient
de suivre déjà. Il fait un peu de compétition, lui, il me semble.
Je suis pas sûre à 100%, je pense.
Et après c'est Cédric qui te prend en charge, pas de problème. Et en fin de journée, ça y est, tu peux aller t'inscrire en MotoGP.
Ouais.
Voilà.
Et battre Rossi.
Justement, Cédric, ça te dit rien, toi, d'essayer de progresser dans des catégories comme ça?
Alors, le gros problème que j'ai, moi, à mon niveau...
La Benecup, tu l'as fait depuis quelques années, quand même.
Ah oui, depuis 2012.
Voilà.
Donc j'ai été champion en 2012 et depuis 2012 je suis resté là-bas. Alors pourquoi? Parce que la mentalité est très bonne, le niveau est très bon, on peut y voir des personnes qui roulent d'un niveau de promo sport et d'un niveau international comme Vincent Lombois qui roule avec nous et qui est maintenant en endurance mondiale. On peut y voir Le Grel, Sébastien Le Grel, vous connaissez tous. Enfin voilà, on a des très très bons niveaux. Moi je me mets en dessous bien sûr hein, en étant humble et après on peut avoir des mecs comme des promo sport qui viennent rouler avec nous. D'ailleurs il y aura pas mal d'amis qui faisaient le promo sport l'année dernière qui vont venir un petit peu avec nous. Donc c'est ça qui est très intéressant dans la Benne Cup, c'est qu'on peut avoir des différents niveaux dans ce championnat là.
On n'a pas trop parlé de cette saison qui a bien commencé, qui est après finalement où tu as eu un petit problème à Spa-Francorchamps, aux 6 heures de Spa.
Oui, aux 6 heures de Spa. Bah écoutez, voilà, comme tout pilote, hein, on cherche un petit peu les limites et je les ai trouvées à Spa-Francorchamps. J'ai pris le mur des pneus.
Mais tu n'as pas la chance de Marquez.
Tu as chuté. Tu as chuté dans quelle partie?
Vous imaginez le raidillon, la ligne droite après le raidillon, donc dans le gauche-droite, en fait, dans le pif-paf, gauche-droite, et j'ai perdu l'avant. Dans le gauche et je suis venu embrasser le mur des pneus qui est très dur. Oui, en fait, Spa-Francorchamps est fait pour la F1. Ça, c'est certain.
C'est juste la casse vitesse avant le raidillon.
Voilà, c'est ça. Et après le raidillon. Bien après. En fait, il y a le raidillon, la ligne droite, et après il y a le gauche droite et dans le gauche.
La montée.
Dans le droit de gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça.
La grande montée. C'est ça.
Donc en fait, réellement, Spa-Francorchamps est fait quand même pour la F1. Il y a beaucoup de dégagement, il n'y a pas de gravier, c'est des murs des pneus qui nous arrêtent. Donc pour la moto, c'est pas forcément au top en niveau sécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas pour l'instant la moto
GP. Il n'y a plus de Grand Prix en Belgique.
Plus de Grand Prix, plus d'endurance.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment du rush. Alors, plus d'endurance mondiale, oui, tout en sachant qu'aux 6 heures de Spa, on a récupéré quand même le team 33, c'est Viltais. Qui a d'ailleurs gagné, il me semble, cette année. Enfin, je n'ai même pas vu le gagnant parce que j'étais. J'avais un petit trauma crânien quand même. Et donc
les
voilà.
Séquelles.
Ouais, c'est ça, il y a un peu de séquelles. Mais je sais dire quand même Star Team Racing. Sauf que. Un ami.
Dans le feu de l'action.
Oui, non, mais je comprends. Je comprends. Donc voilà, moi, ma saison s'est terminée là. Et vraiment dommage parce que voilà, j'étais troisième du championnat. J'aurais pu peut-être grappiller quelques places. Et voilà, maintenant c'est dommage, il faut toujours ressortir positif. Et je me dis qu'à partir du moment où j'ai chuté et que je me suis remis en route, je prépare l'année 2019.
Voilà.
Avec, donc, ouais, c'est Marjorie, merci de me le rappeler. Grâce à BMW RA, c'est vrai que.
Ah, bah oui, bien sûr.
Donc, d'ailleurs, on a signé, hein, comme je vous l'ai dit, une nouvelle moto et une S1000 RR 2019, complètement remaniée avec plus de 210 chevaux. Ça va être énorme.
Énorme. Plus électronique.
Oui, beaucoup plus d'électronique embarquée, avec un châssis complètement refait, bras aussi en l'envers, moteur avec géométrie variable. Ça va être énorme. Ouais.
Alors justement, la Moto 2, en fait, il va y avoir de l'électronique, parce que justement pour adapter les pilotes, parce que quand ils montent de Moto 2 à Moto GP,
on se rend compte
qu'ils sont peu désorientés, parce que justement, il faut pouvoir gérer cette électronique.
C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Moto 2, on a de l'électronique, mais beaucoup moins qu'en Moto GP. En Moto GP, on a tellement de puissance que c'est l'électronique qui bride la puissance. Mais si on bride de trop la puissance, forcément, on n'avance pas. Mmh. Donc c'est littéralement le pilote doit être ingénieur à la limite, quoi. C'est-à-dire que moi, clairement, même moi à mon niveau, en étant 200 chevaux, forcément, sur des circuits comme Croix en Ternois, on n'arrive pas à mettre
ça,
la puissance.
Ça va finir comme la moto, le robot que Yamaha a mis sur une moto et qui roule tout seul. T'as pas peur, Cédric?
Il s'autogère, je dirais.
À la fin, ils ont plus besoin de pilote.
Ouais, d'ici là, vous savez, moi j'ai 40 ans. D'ici là, il me reste une petite dizaine d'années, j'espère, pour pouvoir piloter un peu. Mais c'est clair que.
Tu l'as vu ce prototype?
Oui, j'ai vu. Mais bon, vous avez vu la vitesse. Enfin, ça n'a pas d'allure. Moi, je suis désolé, c'est pas mon truc.
Ça n'a pas d'allure, mais ça marche quand même. Hein.
Ouais.
Voilà, oui. Donc, on termine.
Donc, voilà moi, encore une fois, je remercie tous mes sponsors. Hein. C'est très, très important. Je remercie surtout Kikinku parce que vous êtes très sympa. L'équipe est très sympathique. Tous les ans, je reviens. Ça fait très, très plaisir. Encore un grand merci à tout mon team, mes sponsors et mon concessionnaire.
Merci, Cédric. Marjorie, super, hein, parce que là, sinon, ça ne serait pas sorti au téléphone.
Alors,
vraiment, tu peux revenir dimanche prochain.
Ok, ça va.
Merci, Claude.
Merci pour l'invitation.
Merci, Nico. Tiens, moi, j'ai le calendrier 2019. Le 5 mai, ce sera. Non, le 19 mai, ce sera le Grand Prix de France.
Ouais.
Et ça commence, la saison commence le 10 mai.
Ouais. Et aujourd'hui, on est le 18 novembre, et il faut dire un bon anniversaire à notre Gaston.
Bon anniversaire, Gaston.
Gaston, bon anniversaire.
Gaston.
Merci, Laurent, pour cette technique un peu.
Non,
sur les fils aujourd'hui.
Non,
hein. Voilà, merci.
Attends, juste.
Trop tard.
Oui. T'as dit que la saison a commencé le 10 mai ?
Non, la saison va commencer le 10 mars au Qatar.
10 mars,
le 10 mars.
T'as dit 10
et
mai.
Non, le pa- et non, c'est pas grave. Non, le Grand Prix de France, c'est le 19 mai. Voilà. Oui. Très bien, passez un bon dimanche et nous, on se retrouve forcément dimanche prochain à 11h. Oui, 11h pile. Hein.
Bon dimanche.
Merci.
Bon dimanche à tous.
Merci,
bon
salut.
Dimanche,
au revoir.